Chapitre 11e. Le chevalier. Le garçon se releva presque aussitôt, et tout en se frottant les membres, se tenait obstinément devant la porte de la tonnelle, comme pour nous barrer le passage sans avoir l'air de le vouloir faire. Ruse enfantine, en face d'un homme comme Martin Huma, mais qui devait d'autant plus réussir que celui-ci n'avait nullement l'intention de courir après le fugitif. « Cet homme est fou !» s'écria enfin le garçon. « Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ?»« Je lui demande ce qu'il désire prendre, et c'est lui qui me sert une bourrade, un coup de poing, un croc en jambe. » Martin Huma crut devoir rire. « En effet, dit-il, voilà un singulier client. C'est un accès de folie. » À ce moment, les détonations d'un moteur qu'on met en marche arrivèrent jusqu'à nous. « Tenez !» s'écria le garçon. « Le voilà qui se sauve, comme s'il ne voulait pas payer son addition. » À son tour, le garçon se mit à rire, d'un rire faux. Évidemment, ces deux hommes se jouaient mutuellement à la comédie, comme devant une galerie, qui se composait de moi seul. Chacun d'eux cherchait à tromper l'autre. « Le voilà qui file du coup à toute vitesse. Il va se casser le cou ou se jeter dans la Seine. Ah, le malheureux. Et malheureux aussi ceux qui se trouveront sur son passage. » Tout en parlant, le garçon était sorti de la tonnelle. Il fit comme s'il voulait voir s'éloigner l'automobile du comte, chercha un coin, un passage pour regarder à travers les branches, et il remonta vers l'auberge, puis disparut à son tour. Nous restions là, mon ami et moi. Martin Huma, très calme, avait sorti une cigarette de son étui et l'alluma. « Rien à faire, dit-il, attendons. » Il vint près de la porte de la tonnelle et regarda, fouilla les alentours du regard. « Bon, fit-il, plus rassuré, ça va bien. » Comme il venait à peine de s'asseoir, l'aubergiste parut à la porte de la tonnelle. « Eh bien, messieurs, demanda-t-il, nous venons de faire la commande à votre garçon. »« Mon garçon, fit avec stupéfaction l'aubergiste. « Mon garçon, quel garçon ? Celui que vous avez envoyé vers nous pour nous demander ce que nous voulions. » L'aubergiste, brave homme, roulait de gros yeux ronds. « Mais je n'ai pas pu vous envoyer mon garçon. Pourquoi ?
Je n'en ai pas.
Ah, baste.
Non, monsieur, c'est moi qui fais le service.
Pendant l'été seulement, du samedi au lundi, je prends un extra, mais hélas, nous ne sommes pas en été.
Non, en effet. Cependant, il est venu ici, un garçon, nous prendre la commande.
C'est un peu fort. Ce n'était pas mon garçon.
Oh, je l'ai bien vu tout de suite.
Comment cela ?
Celui qui jouait le garçon de restaurant s'était mal costumé.
Mal costumé ?
Oui. Il ne connaissait pas très bien la tenue que les garçons de restaurant portent par ici.
Mais ils n'en ont pas.
Précisément. Celui-ci en avait une ou croyait en avoir une.
C'est pour cela que je vous disais que j'avais flairé immédiatement la ruse. Ici, aux environs de Paris, sur la Seine, dans ces restaurants à apparence d'auberge, viennent des gens, à Vilaine surtout, aimant un certain confort. Si le patron de l'auberge s'habille comme il l'entend, et pour la commodité de son travail, les garçons qu'il emploie, fixes ou extra, portent la tenue ordinaire des garçons de restaurant parisiens.
C'est exact, je l'exige.
Je le sais, tandis que celui-ci s'est présenté avec un tablier bleu.
Oh, un tablier bleu, chez moi.
Parfaitement, comme chez un marchand de vin du faubourg ou un garçon de cave, il ne connaissait pas les usages. Donc c'était un faux garçon.
Et vous lui avez donné la commande ?
À quoi bon ? Il ne vous l'aurait pas transmise. Il a pris la poudre d'escampette.
L'aubergiste se montrait sincèrement indigné.
Voilà un garnement qui, si jamais il me tombe sous la main, passera un mauvais quart d'heure. Mais si on n'avait pas affaire à des gens du monde comme vous, à des personnes intelligentes qui comprennent les choses, qui savent qu'on est malgré soi dans les maisons les mieux tenues, à la merci d'un fumiste, « mais ça ferait perdre toute une clientèle. »«
Soyez sans crainte, cela n'arrivera pas avec nous. »«
Pour vous en donner la preuve, vous allez nous préparer à déjeuner, et je vous laisse le soin de dresser le menu. »«
Bien, monsieur, très bien. »
L'aubergiste s'était à peine retiré, nous donnant encore l'assurance qu'il nous traiterait admirablement. Qu'un homme, brisant les haies de fusain, passant à travers les charmilles pour aller plus vite, un homme fit irruption dans la tonnelle, la figure décomposée, les yeux hagards, inquiet comme fou.
« Anlio » appelait-il « Anlio »
Il nous regarda anxieusement, Martin Huma et moi, et voyant que le comte di Villacciaboli ne se trouvait pas avec nous, il nous demanda vivement « Il n'est pas là ?
Pas là ?»«
Non, » répondit le détective, « il vient de partir. »«
Partir comment ? Vers quel endroit ?»«
Partir en automobile. » L'inconnu leva les bras désespérément. « Ah, le malheureux » s'écria-t-il. « Parti en automobile, le malheureux !» Il se laissa tomber, accablé,
sur le siège en rotin que, précisément, occupait le comte, répétant avec la plus douloureuse intonation « Le malheureux, il va se tuer. Pourquoi il ne sait donc pas conduire ? Lui, un Léo, c'est un chauffeur de première force. Alors, que craignez-vous ? Regardez. » Il jeta sur la table devant nous une clavette brisée. « Ils ont enlevé la clavette du boulon de la tige de direction !» Nous comprîmes, et nous ne pûmes retenir un cri d'épouvante. « Il court à la mort, vous dis-je, répéta l'homme, il court à la mort !» Ce n'était que trop vrai. Le comte s'était élancé sur la route, filait en vitesse vertigineuse. Il filait à 110, et la trépidation, les sursauts de la voiture allaient fatalement, au bout d'un temps plus ou moins long, amener un déchaussement du boulon. La tige de direction céderait, n'obéirait plus. La chute était fatale, la mort certaine. « Ah, le malheureux !» répétait l'homme. « Pauvre Anlio !» Puis s'adressant à Martin Numa, « Je sais, monsieur, qui vous êtes. Je suis moi le chevalier Fontis, ami d'enfance du comte di Villacciarboli, son second, son frère. » Depuis quelques jours, je me doutais que chez lui se passait quelque chose d'anormal. J'ai flairé un danger, le péril que vous connaissez, qu'il a dû vous révéler. Caché dans le haut du jardin, là-bas, j'ai vu votre rendez-vous, j'étais déjà rassuré. Je voyais mes craintes s'évanouir. Mais j'ai vu aussitôt quelque chose de très grave. J'ai découvert une chose épouvantable, compris que le danger que je redoutais existait. Et j'ai eu cette certitude que vous, malgré toute votre habileté, votre vigilance, votre courage, vous seriez incapable de le détourner, d'en préserver mon malheureux ami. Qu'avez-vous découvert ? Devant moi, un homme est passé, sans me voir. Cet homme portait un tablier bleu. Le garçon ? Ce n'était pas le garçon. C'est un des plus habiles chefs de la mafia ennemie, l'ennemi même du comte. Oh, cet homme est terrible, rusé, fort, implacable. Il a vu le comte en votre compagnie. Il se doute de la révélation, qui, à ses yeux, est une trahison. Or, toute trahison est punie immédiatement de mort. Le comte peut échapper. Dieu ferait dans ce cas un miracle. Je venais pour prévenir Anlio, le mettre en garde, l'emporter dans ma voiture, vous donner l'alarme. Voici ce que mon chauffeur, que j'ai mis aux aguets près de l'endroit où Anlio avait remisé sa voiture, m'a rapporté. La clavette de la tige de direction de la voiture de Villacciarboli. J'avais un espoir, c'est qu'on lui avait pris sa voiture, c'est que ce n'était pas lui qui filait dedans. J'espérais trouver Anlio ici avec vous, et vous me dites que c'est lui qui file, hélas, Anlio est perdu, perdu. La voiture peut rouler comme ça pendant un moment, mais au premier tournant, au premier coup de volant, au premier chaos, la direction va être folle. Et la voiture sans guide sera culbutée, projetée avec une force formidable dans un fossé, dans la Seine, contre un arbre, contre un mur. C'est la mort, c'est la mort. Le chevalier Fontis se leva alors. Adieu, messieurs, adieu. Je m'élance sur les traces de mon malheureux ami. Il partit à travers le taillis. Quelques minutes plus tard, nous entendions le ronflement d'un moteur puissant. Le chevalier Fontis s'élançait à son tour sur la route tragique. Martin Numa s'était assis dans son fauteuil de rotin sans rien dire, très calme. De son étui, il tira une cigarette, l'alluma tranquillement et se renversant en arrière, les jambes croisées, se mit à fumer lentement, suivant d'un œil placide les volutes grises que la brise défaisait tout doucement. Jamais je ne l'avais vu ainsi, je pus m'exprimer de la sorte, enveloppé douillettement de parfaite indifférence. Et l'impression chez moi fut si forte que sur le moment je ne pus m'empêcher de lui dire « Mon cher, en vous voyant ce matin, deux sentiments extrêmes m'étreignent. Lesquels donc, mon cher Courville ? Je vous admire, et je ne vous comprends pas. Vraiment ? Oui. Le premier sentiment est flatteur pour moi. Le second est inadmissible. Cependant, réfléchissez, vous verrez. Comment, mon cher ? Nous voici lancés dans une affaire des plus poignantes, des plus mystérieuses, des plus dramatiques qui soient. C'est vrai. Sur la route de Saint-Germain, un homme honnête, loyal, court à une mort certaine. Le malheureux. Un autre, son ami, aussi digne que lui, à mon avis aussi brave, se précipite, allant lui aussi sans doute vers un péril aussi grand. Le même, certainement. Vous le savez ?
Oui.
Et vous demeurez là, tranquille, sans paraître vous émouvoir le moins du monde. Quand vous venez d'apprendre une partie, la mort seulement, d'une révélation des plus importantes, quand en somme nos amis sont perdus, vous vous carrez dans votre fauteuil, béatement, vous fumez votre cigarette avec une sérénité imperturbable. Mon cher, je le répète, je vous admire et ne vous comprends pas. »
Martin Huma, qui sans sourciller écoutait ma tirade vibrante, quand j'eus fini, tourna lentement ses yeux vers moi.
« Je n'ai pas d'autre chose à faire, » me dit-il simplement, « que fumer votre cigarette
et attendre les événements.
Mais encore. »
Martin Huma étendit le bras et posa la main sur mon épaule.
« Mon cher, le propre de l'homme d'action n'est pas de se précipiter comme un fou vers un but incertain, mais de partir à temps et de ne pas s'arrêter en route, en allant vers un but bien défini,
évidemment.
Suis-je un homme d'action, à votre avis ?
Essentiellement.
Donc, je ne dois partir que quand j'aurai un but précis, et surtout m'arranger pour ne pas être retenu en route.
Mais ici, nous avons un but.
Lequel, je vous prie ?
Courir après le comte de Villa Charboli.
Joli but, en effet, et d'une précision rare.
Le comte di Villa Charboli file dans une voiture de beaucoup plus puissante que la mienne vers un chemin que je ne connais pas. Il faut donc que je batte les routes de Mantes à Paris, les chemins partant de Poissy, toutes les allées de la forêt de Saint-Germain, que j'aille au hasard, en flairant les haies, interrogeant les passants, les gardes-barrières, pour ne rien obtenir comme renseignement précis, et faire certainement buisson creux, c'est-à-dire tourner dans le vide, perdre mon temps, user les pneumatiques et brûler de l'essence sans aucun résultat, sans le moindre profit.
Pardon, mon cher, vous savez que la direction de la voiture du comte est défaite, donc il ne peut aller loin sans être arrêté par l'accident fatal.
Très juste.
Dans ce cas, inutile de courir après lui, et son ami, le chevalier Fontis, se chargera bien de le ramener ici.
Martin Huma ajouta, à moins que le chevalier Fontis ne soit lui aussi victime d'un accident du même genre.
Je poussai un cri d'épouvante, car la même pensée m'était venue au moment où mon ami me disait cela.
« Vous comprenez, » ajouta-t-il, « que des gaillards qui usent de pareils procédés n'en sont pas à un assassinat de plus ou de moins.
J'en ai peur.
Donc, s'ils ont démantibulé la voiture du comte, ils ont dû arranger aussi l'auto du chevalier, de telle façon qu'un accident du même genre lui arrive.
Mais c'est épouvantable.
Alors, que va-t-il se passer? Car à moins d'admettre une intervention inattendue, un secours inespéré ou une banale mais si peu probable panne d'essence, il va se produire ceci. Le comte, au bout d'un temps plus ou moins long, va être tué. Le chevalier ne tardera pas à subir le même sort.
Les malheureux.
Nous, qui nous dit que, malgré la vigilance de mes agents, on n'a pas fait subir à notre voiture une opération du même genre. Nous ne pouvons logiquement nous lancer à la poursuite de ces deux chauffeurs et, pour leur porter un secours inutile, courir le risque de subir le même sort.
En effet.
Donc, attendons.
Attendons.
Ne bougeons pas d'ici. Nous saurons tout de suite à quoi nous en tenir sur les événements. Et nous pourrons alors agir promptement, rapidement, sans danger et sans perte de temps.
Je ne pouvais que m'incliner. Cet homme avait toujours raison.
Peu après, l'aubergiste nous prévenait que le déjeuner était prêt.
Nous rentrâmes dans l'auberge.